Bienvenue à vous, bravo et merci Rika Zaraï, hommage à Rika enregistré en 2007 à Metz alors qu'elle était en tournée H Tendre et Tête de Bois avec Demis Roussos, Stone et Chardin, Richard Anthony, Patrick Topalov, Pascal Danel, Georges Chelon, Michel Thor et d'autres encore. Rika Zaraï participait pour la première et seule fois à la tournée H Tendre dont c'était la deuxième saison. Elle ne s'était pas produite sur scène depuis quelques années.
Bravo et merci.
Thierry Georges.
C'est vrai. Oh, j'ai fait en 2002 et en 2004, j'ai fait une très longue tournée, mais pas aussi longue que celle-ci. Je l'ai fait toute seule, comme j'ai l'habitude de travailler, parce que je travaille toujours en solo. Et ça, c'est la première fois de ma vie que je joins une tournée avec d'autres vedettes, d'autres artistes. Et j'avoue que je suis toute en étant, disons que c'est une école d'humilité, parce qu'il faut partager la scène avec 13 autres artistes. Mais en même temps, je suis ravie, d'abord parce que je revois des anciennes amies que je n'ai pas vues depuis des années. Deuxièmement, parce que la musique est riche, parce que les refrains sont riches, parce que c'est beaucoup plus riche que quand la personne chante toute seule. Je rencontre des amis, j'apprends des choses. Quand on voit les autres travailler sur scène, ça nous apprend, nous artistes, des choses. Et je me dis, c'est une expérience sensationnelle, c'est la première fois que je le fais.
C'est vrai, c'est incroyable. Alors, donc, ce sont des gens que vous connaissez depuis longtemps, que vous avez, je pense, surtout croisés sur des plateaux de télévision, enfin, ou en dehors, dans les
Oh
coulisses.
non,
Enfin,
tout de même, on a vécu ensemble dans les années
Oui.
60-70, quand leurs chansons sont sorties en même temps que les miennes. Donc on a vécu ensemble une période extraordinaire. Mais la période était extraordinaire, mais lorsqu'on vit une période extraordinaire, on ne le sait pas.
Oui, c'est ça.
On ignore encore. C'est après, par comparaison, c'est après, par le oui-dire d'autres personnes, qu'on commence à se rendre compte qu'on a vécu une période extraordinaire. Mais à l'époque, à ce moment-là, et moi je connaissais très très bien Claude François, par exemple, mais il était dans mon salon à moi quand il a répété pour la première fois la chorégraphie de Belle, Belle, Belle. Et après, on s'est vu, il m'a dit, ah oui, la chanson, ça se porte bien. Mais jamais il a pensé pendant. En vivant ce moment-là, jamais il a pensé à la carrière extraordinaire que cette chanson a fait et fera.
Donc aujourd'hui, vous goûtez peut-être davantage, vous en profitez pleinement, vous profitez de chaque instant en fait.
Oui, Thierry, c'est exactement ça. Et maintenant, j'ai le recul tout de même. J'ai l'âge aussi. Et avec l'âge, on peut peut-être relativiser davantage. On a le recul. On commence à savoir ce qui est important et ce qui est moins. Et moi, je trouve cette rencontre avec des copains formidable. Je trouve extraordinaire ce fait-là de pouvoir chanter dans tant de concerts. Et surtout, je trouve que cette tournée-là est un phénomène de société. Et on est parti avec
Complètement.
X nombre de spectacles. Maintenant, pendant la tournée, il y a plein d'autres dates qui se sont ajoutées. On voit 5 000 personnes l'après-midi. On voit 5 000 personnes le soir, mais c'est unique dans les annales des music-halls. Jamais on n'a vu une chose pareille. C'est
C'est
extraordinaire.
presque digne d'une tournée des Rolling Stones. Hein?
Oui,
Ouais.
mais la technique est digne d'une tournée des Rolling Stones. La technique, les deux écrans géants, les 10 musiciens sur scène, orchestre vraiment importante, et puis toute la technique des micros, des haut-parleurs qui sont de première qualité et digne de Rolling Stones et les lumières et tout. Seules les chansons sont nostalgiques, mais nostalgiques, si, oui et non, nostalgiques, on les a chantées il y a 30 ans, mais on peut les chanter aujourd'hui aussi.
Ils sont partis dans un soleil d'hiver. Ils sont partis. Courir la mer pour effacer la peur, pour écraser la peur que la vie leur a clouée au fond du cœur. Ils sont partis en croyant aux moissons divines.
Alors moi, j'ai repris quelques informations concernant votre parcours, des choses que je savais, des choses que je ne savais pas. Par exemple, que vous étiez premier prix de conservatoire de piano à Jérusalem.
Oui.
C'est vrai que moi, quand je vous regardais à la télévision, on disait toujours, ouais, il était militaire, Greg Casaray. C'était pas courant à l'époque. Vous deviez être la seule femme militaire.
J'étais en tout cas la seule femme publique militaire que les Français ont connue et la seule chanteuse.
Qui était
ex-militaire.
Et à l'époque, dans l'armée française, il n'y avait pas de femmes. C'est différent aujourd'hui. Donc, vous étiez vraiment tout à fait atypique. Et je ne savais pas que vous aviez, au début, traduit des chansons d'Aznavour, de Brassens, quand vous étiez en Israël.
Oui.
C'est un peu ce qui vous a amené vers la France, en fait, Greg Casaray.
Je connaissais bien l'anglais quand j'ai fini mon baccalauréat. Et je suis sortie première en Israël en anglais. J'étais vraiment excellente. Par contre, pas un mot de français. Et voilà que j'écoute une chanson de Georges Brassens, c'était l'Auvergnat très exactement. C'était quelque chose d'étrange parce que cette langue française était à mes oreilles qui ne comprenaient rien. Elle était élégante, mystérieuse et en même temps familière et simple. Elle n'était pas simple du tout, elle n'est pas jusqu'aujourd'hui parce que la langue française n'est pas simple, elle est très élégante et riche. Mais ces mots français chantés par une voix comme celle de Georges Brassens, avec l'accompagnement de la guitare et tout, c'était d'une beauté, je tombais sous le charme. Et alors après, bien sûr, c'était aussi Mouloudji, c'était Yves Montand, c'était Mick Michel, c'était Juliette Gréco. Tous ces artistes-là, moi naïvement, dans ma tête de petite fille de 20 ans, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils chantent bien ces gens-là. Je comprends peut-être pas un mot, mais j'adore. Je viendrai un jour à Paris et je ferai la tournée des popotes. J'irai d'une maison à l'autre, j'irai les serrer la main et leur dire que c'est formidable. Parce que moi, venant d'un pays comme Israël, un pays très très simple, où on voit un artiste qu'on aime, on dit, Shmoulik ou David, etc. J'adore vos chansons, aussi simple.
Même le tutoyer.
Oui, mais on voit même les premiers ministres, David Ben-Gurion, on le tutoie et on lui dit, alors David, est-ce que tout va bien? Mais comme ça. Donc c'est un pays très simple, pays des pionniers. Donc j'imaginais dans ma petite tête que voilà, j'arriverais à Paris et je dirais bonjour à tout le monde. Et à un certain moment, j'ai pris mon courage à deux mains, après le service militaire, et je suis arrivée en France. Je dis toujours que je suis arrivée pour une poignée de notes de musique. Ouais. Mais après, je me suis sentie comme une toute petite fourmi dans un océan des gens. C'était tellement grand par rapport à Tel Aviv, par rapport à Jérusalem. C'était immense Paris. Et je me suis sentie comme une toute petite fourmi. Et je me suis rendue compte que j'étais absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Comment arriver jusqu'au cœur, jusqu'aux oreilles de ces Français pour leur dire, écoutez-moi, j'existe, je viens d'Israël et je vais vous chanter quelques chansons. J'ai un gros accent, bien sûr, mais est-ce que vous allez m'aimer? Est-ce que vous allez m'accepter? À ce moment-là, j'ai compris que je ne pourrais pas faire la tournée des popotes et d'aller d'un Yves Montand jusqu'à Mouloudji ou serrer la main et dire « Eh oh, moi j'arrive d'Israël, c'est moi Rika d'Israël, je vous adore, je vous ai écouté. » Non, bon, j'ai compris.
Ceci dit, vous êtes allé voir Cocatrix, vous êtes allé à l'Olympia et puis ça a été une de vos premières rencontres, je pense, Cocatrix.
Je suis allé à Cocatrix parce que je savais très bien qu'il me faut un théâtre.
Et vous n'aviez pas choisi le plus modeste, finalement.
Ah non, mais c'était symbolique, parce que l'Olympia est symbolique. Et je peux vous dire en passant, là, vous êtes le premier à qui je le dis, les 1er et 2 février 2008, je fais l'Olympia. Je fais 2 jours à l'Olympia, et c'est un scoop, vous êtes le premier à le savoir.
Merci. Et votre précédent, c'était il y a combien d'années?
Ah, il y a un long moment déjà. Ah oui, il y a très longtemps.
C'était l'ancienne Olympia, donc. Enfin, c'est le même, mais il a juste bougé de quelques mètres.
Oui, c'était encore l'ancienne Olympia.
La vie donc, formidable.
Oui, voilà. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Venismecha. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Venismecha. Hava, Nera, Nena, Hava, Nera, Nena, Hava, Nera, Nena, Venismecha. Hava, Nera, Nena, Hava, Nera, Nena, Hava, Nera, Nena, Venismecha. Uru, 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 U
Alors bon, on va pas, bien sûr, il y a tellement de choses à dire, mais le premier succès a été à Vanaguila. Je savais pas que Claude Lelouch, vous avez fait un scopitone pour tourner Manège. Hein, c'était les clips de l'époque. Hein.
Ah, c'était les clips de l'époque et lui, il n'était pas très connu. Mais enfin,
c'était
il était
avant Un homme et une femme.
Il était plus connu
trois
que moi.
Trois ans avant Un homme et une femme, oui. Mm-hmm.
C'était tourner Manège. Donc, il a l'idée toute naturelle. Il m'amène à la foire du trône et il me met dans un manège. Et c'était des avions. Et le truc de la chose, c'était que ça a tourné tranquillement. Et à un certain moment, chaque avion tombait d'un mètre avant de recontinuer ou recommencer le tour. C'était le truc pour que les gosses et les autres commencent à crier un tout petit peu de frayeur. Mais pas uniquement les gosses. Moi, à chaque fois que l'avion tombait d'un mètre, moi, j'étais très effrayée.
Bah, le sergent-chef, enfin.
Alors, il fallait que je chante « Tourner ma neige, c'est mon plus beau jour ». Et chaque fois, j'ai été tellement figée, j'attendais le moment où l'avion tomberait, que je n'arrivais pas à chanter bien. Et hop, j'ai tombé, j'avais l'impression que l'estomac restait là-haut et que moi, je suis descendue en bas. Bon, bref. À un certain moment, Claude Lelouch arrête le tournage et il me dit « Non, 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 mademoiselle, ça ne va pas du tout. C'est une chanson gaie, c'est une chanson énergique. Tournez ma neige, c'est mon plus beau jour », je dis dans la chanson. Mais vous, vous avez l'air tellement inquiète, vous avez les yeux, le regard tellement effrayé, qu'est-ce qui se passe ? Alors je lui ai dit, mais voilà, écoutez, je n'aime pas du tout ce manège. Chaque fois l'avion tombe d'un mètre, moi je suis effrayée et je me demande à quel moment ça arrivera. Je n'arrive plus à me concentrer sur la chanson. Ah, il me dit oui, je comprends. Alors lui, il gratte la tête et toute son équipe gratte la tête. Finalement, c'est lui qui trouve la solution. Il me dit, vous savez quoi ? Moi je vois le cran, je vois à quel moment l'avion va tomber. Chantez tranquille. Quand il va pour tomber l'avion, descendre comme ça brutalement, je vous dirai maintenant. Comme ça, vous savez que l'avion va descendre d'un mètre.
D'accord.
Et c'était formidable comme solution parce que tout au long du trajet, j'étais tranquille, donc j'ai chanté tranquille sans voir un regard effrayé. Et quand il m'a dit ce maintenant, je maintenais les deux accoudoirs, oui, très fort, et je me redressais pour me dire, je n'ai pas peur.
Oui, c'est ça. Mais parce que vous continuez à chuter quand même à chaque fois. Sauf que vous ne chantiez pas à ce moment-là, mais sinon, ça chutait quand même.
Ça chutait tout de oui, même. Mais quand on dit maintenant, c'est moins effrayant que quand ça arrive comme ça et l'estomac reste là-haut. Ouais. Alors voilà, c'était mon premier scopitone avec lui. Ouais.
Bravo et merci, hommage à Rika Zaraï avec la rediffusion d'un entretien enregistré pendant la tournée H Tendre à Metz en 2007.
C'est l'hiver qui frappe à notre porte, mes amis, allumons un bon feu. C'est l'hiver que le diable emporte, mes amis, ce soir oublions-le. C'est l'hiver que le diable emporte, mes amis.
'69, le Casa de Choc, on a tous en mémoire. Alors, je chante, ça a été vraiment des gros succès hein, à l'époque.
Énorme.
Énorme hein.
Vous savez, aujourd'hui, et à 80 000.
C'est ça. Aujourd'hui, un disque d'or, c'est 100 000.
Même pas, on a baissé le chiffre encore. Ah oui. À 80 000, c'est un disque d'or. Mmh. Mais moi, j'ai vendu de Casa de Choc 2 600 000 les disques. Vous vous rendez compte ? Avec Alors je chante, c'était presque le même chiffre. Mm-hmm. Sans chemise, sans pantalon, ouais, on ne parle pas. Donc, vous voyez bien, j'étais une très, très grosse vendeuse de disques. L'époque, bien sûr, s'y prêtait. L'époque était formidable. Voilà pourquoi nous chantons aujourd'hui, des chansons des années 60 et 70.
Que tout le monde en mémoire. Parce que moi, je peux vous fredonner, alors je chante. Enfin, je peux vous fredonner le canal. Enfin, vous aussi, bien sûr. Mais tous les spectateurs qui sont là peuvent le faire. Moi, étant Agathe, est à Bogota, et qui est à Cuba.
Tante Agathe est à Bogota. Après, tante Alice est à Calcutta. L'oncle Jacques est au Canada. Et l'oncle Jules à Haïfa.
Personne à Cuba, alors finalement. Bon, à Haïfa.
Tant ta gâte est à Bogota.
voyageurs. Quand j'allais à l'école, c'est vraiment grâce à eux. Si en géographie, moi, je me débrouillais le mieux. Pour mon anniversaire, pour la fin de l'année, je recevais des cartes qui venaient du monde entier. Les pays et les villes, pour moi, c'était facile. Je répétais simplement dans ta gamelle.
Mais il y a eu aussi cet accident et vraiment, vous forcez l'admiration. On vous avait en gros, grosso modo, condamné. Vous avez dit que vous seriez à vie en fauteuil roulant.
Oui.
Alors, l'énergie de cela, vous l'avez prise où? Et puis, c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous intéresser à d'autres médecines.
J'ai commencé à m'intéresser à d'autres médecines parce que tout ce qu'on pouvait me conseiller ou me dire n'a servi à rien. Les médecins m'ont condamné. Mmh. Et c'est un monsieur...
Donc, c'est un accident de voiture.
Hein. Raymond Dextré qui m'a dit, il y aura peut-être à faire quelque chose, mais il faut changer complètement votre alimentation. Il faut changer votre hygiène de vie. Mmh. Je le fais avec argile, avec les huiles essentielles, avec plantes, avec d'autres aliments, avec le bio au début. Ouais. Ça a pris plusieurs mois tout de même, mais 8 mois après, je commence à remarcher tout de même. Ouais. Et c'est là où je suis tellement reconnaissante envers le destin, envers cette hygiène de vie naturelle, que je me dis que c'est un enseignement tellement important, tellement essentiel c'était pour moi, et je suis sortie d'un handicap et d'une paralysie tellement importante, j'ai dit je ne peux pas laisser ça uniquement pour moi, il faut que j'apprends bien toute cette théorie et que je puisse la transformer et transmettre aux autres.
Alors les livres ont été des succès, mais qu'est-ce que vous en avez pris quand même en pleine poire? Qu'est-ce qu'on s'est moqué de vous? Enfin, qu'est-ce que aujourd'hui le contexte est différent. Je pense qu'on vous prendrait davantage au sérieux. Mais à cette époque-là, les médecines naturelles différentes, on en parlait peu. Je me souviens de ça aussi. Enfin, beaucoup d'humoristes avaient réduit ça à cette histoire de bain de siège, en fait, etc. Qu'est-ce que vous êtes pris quand même dans la tronche à l'époque, hein?
Vous savez, j'ai souffert pendant qu'on s'est moqué de moi et de cette théorie si essentielle à la santé des gens. Et je pensais pendant des semaines et des mois, je dis, mais où est-ce que j'ai failli? C'est impossible que les gens réfutent cette théorie si importante, si nécessaire à la vie, à la santé des autres. Et je me suis dit à l'époque, c'est que j'ai mal expliqué. La seule chose qui pouvait être logique à mes yeux, c'est que j'ai mal expliqué. Parce que je n'imaginais pas qu'on pouvait réfuter cette science. Mais après, avec le recul et avec le temps, j'ai compris beaucoup de choses. D'abord, les gens n'aiment pas les changements. Et ça s'appelle homéostasie. Les gens aiment le status quo. Ils aiment que les choses continuent toujours comme ils étaient. Ils n'aiment pas les changements. Numéro un. Numéro deux, donc, à partir de cette envie que les choses restent stables, même des grands scientifiques, même Pasteur, étaient appelés par ses pairs charlatans. Même Pasteur, pour vous dire... Et après, la question était, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? D'avoir transmis une telle information, d'avoir transmis une telle science, ou j'aurais pu rien dire, la fermer, comme on dit, et vivre tranquille. Et je me suis dit, je n'aurais pas pu. De savoir tout ça, et ne rien dire aux autres, ce n'est pas mon caractère. Ce n'est pas ma manière de faire. Je dis, même si je pris plein la tronche, même si on s'est moqué de moi, mais moi, mon devoir de citoyenne, de témoin, d'une femme civique, moi, je l'ai fait. Et je peux me regarder dans le miroir tranquillement chaque matin parce que j'ai fait mon devoir et vous voyez bien que maintenant, aussi un tout petit peu grâce à moi, tous les gens connaissent maintenant cette nouvelle hygiène de vie.
Oui, complètement, puisque maintenant c'est... Et le milieu médical s'était comporté comment à l'époque?
Odieusement. Ils étaient odieux avec moi. Et maintenant, dans toutes les assemblées partout, il y a toujours un médecin qui me fait un petit sourire me disant « Je savais depuis le départ que vous aviez raison. » Mais il n'avait pas le courage de le dire. « Je savais depuis le départ. » Et parfois, je suis un peu en colère et j'ai dit « Mais pourquoi vous ne le disiez pas à l'époque ?» Parce que j'ai souffert beaucoup. Il dit « Oui, mais vous savez, l'ordre de médecin. » Alors, à l'époque, c'était de bon ton de se moquer de moi.
Casser, de
mais aujourd'hui, on dit que tout le monde savait depuis le départ que c'était vrai. Ouais. Mais bon, C'est comme ça.
Ouais. C'était le contre-coup, je crois que vous avez eu un moment de dépression, c'est le contre-coup de tout ça.
Oui, bien sûr, bien sûr. Que voulez-vous? Je ne suis pas une surfemme, je ne suis pas un surhomme, je ne suis pas. Je suis comme tout le monde. Et quand on vous tape, tape, tape dessus, il arrive un moment où on ne peut plus. Bon, mais c'est bon tout ça, parce que finalement, si la vie passe comme ça, tranquille, il n'y a rien qui se passe et que vous n'avez pas essayé de faire changer quelque chose dans la société. Bon, ok, vous avez vécu, mais on ne peut pas dire que vous avez fait quelque chose pour les autres. Et moi, je suis très fière d'avoir fait des choses pour les autres. Et je me dis là, devant vous, si une autre fois je devrais encore transmettre un savoir inconnu qui risque de m'apporter des moqueries et même de vies difficiles, j'hésiterai plus. Maintenant que je suis plus vieille et que j'ai encore plus
Vous le feriez.
d'expérience, je le ferai à nouveau parce que c'est mon devoir.
Sans pantalon, ce soir nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon, ce soir nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon.
Vous êtes resté une douzaine d'années sans musique?
Oui, parce que j'ai écrit tout de même
Oui,
six
des
livres.
livres, avec le gros
Avec
succès.
six livres, vous
2 millions,
savez.
ça, là aussi, 2,5 millions d'exemplaires vendus. Au niveau des ventes de livres, c'est énorme. On parlait de disques, c'est
Ah,
beaucoup. Les,
vous
et
parlez de mon premier livre, 3,5 millions.
3 millions et demi. Ah, j'ai 1 million, il manque 1 million.
Oui.
Mais, oui, c'est énorme. Enfin,
Oui.
en termes de ventes, ça
Après, la
paraît
Bible, c'est le
inimaginable.
livre qui s'est vendu le plus dans le monde, paraît-il.
C'est vrai, ouais.
Oui.
C'est incroyable. Hein. Ça vous manquait la chanson, la musique pendant ces
Tout le
années-là?
temps, tout le temps. La musique, c'est quelque chose d'extraordinaire. La musique est une substance qui vous fait vivre. Mais j'étais tellement prise dans cette croisade, dans ces livres, six livres d'écrire sur le sujet. Et Thierry, on ne s'improvise pas comme ça. Et médecin, il faut savoir, il faut étudier. J'ai étudié dans toutes les écoles naturelles du monde. Je suis allée aux États-Unis, au Hippocrate Health School. Je suis allée en Allemagne. Je suis allée en Israël. Et après des longues études, j'ai écrit. Donc ça m'a pris tout le temps. Ça m'a manqué la musique, mais en même temps, j'avais les devoirs de transmettre ce que je savais.
Alors, et aujourd'hui, il paraît que vous êtes une icône gay.
Paraît-il, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire d'être icône. Moi, je sais que je suis une femme, tout court, une femme simple qui chante. Et la chanson est très importante pour moi. Mais alors, paraît-il que je suis une icône gay. Disons que je parle avec eux. Disons que je suis quelqu'un qui sait écouter. Et peut-être ils trouvaient en moi une oreille attentive.
L'espérance a toujours raison. Ce sont vos mémoires. C'est paru l'année dernière?
Ça a paru et
En
il y a
2006,
quatre
non?
mois.
Ah!
Il y a 5 mois.
5 mois. Oui, donc à cheval pratiquement sur
Oui,
2006-2007.
voilà.
Ouais.
Oui, je racontais toute ma vie, je racontais ce problème que j'ai eu donc avec cet assassinat médiatique, mais je racontais plein d'autres choses de mon enfance, des choses qu'on ne connaissait pas. Je sentais que c'était le moment
Ouais.
d'écrire.
Vous retournez régulièrement en Israël?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a mon frère, sa femme, leurs 4 enfants, tante, oncle. Mes parents ne sont plus de ce monde. Mes tantes, oncles et
Alors,
tout le reste de la
vous avez
famille.
toujours, Rikazaraï, milité, enfin délivré des messages de paix, autant que je me souvienne.
Je crois que c'est peut-être la chose qui me caractérise le plus. C'est ma lutte pour la paix. Oui.
Est-ce que vous la sentez, vous pensez qu'elle va poindre
Ah oui, j'y crois très fort. Et je crois que la paix arrivera encore de mon vivant. Oui, je crois que je verrai la paix. Je suis convaincue même.
Ben je vous remercie beaucoup, Rick Azaray. Donc, sur scène à l'Olympia, début 2008.
Les 1er et les 2 février 2008. Et j'espère que vous venez me voir à l'Olympia.
Avec plaisir. Et puis après, vous reprendrez peut-être la route aussi. Alors, bien sûr, il y a la grosse tournée, mais peut-être toute seule aussi sur
Oui.
la route à nouveau.
Voilà.
Merci, shalom.
Shalom, merci Thierry, et je vous embrasse, vous toutes et vous tous.
Bravo et merci. Hommage à Rick Azaray, enregistré en 2007. Elle avait des projets pour 2008 qu'elle a pu mener en partie à bien, fêter ses 50 ans de carrière jusqu'à cet AVC le 3 juin 2008. Rick Azaray remontera une fois sur scène, 12 ans plus tard, lors de la nuit de la déprime organisée par Raphaël Mezrahi au Folies Bergères le 3 février 2020. Elle est décédée le 23 décembre de la même année à Paris, à l'âge de 82 ans. Bravo et merci Françoise Mallet pour l'organisation de cet enregistrement en 2007. Réalisation Romane Feocchio.
Respect et chapeau.
Sous-titrage Société Radio-Canada.